Bonjour. La prédication que je vous apporte maintenant est la suite de la prédication que j'ai faite vendredi passé au sujet du scellement des mariages éternels. Et je vais vous apporter encore d'autres précisions. Et je prie vraiment que le Seigneur Jésus-Christ ouvre votre intelligence afin que vous compreniez et que vous acceptiez sa pensée pour notre temps. Nous allons faire une lecture dans Malachie 4, 5, 6, s'il vous plaît. Voici, c'est le Seigneur qui parle, je vous enverrai Élie, le prophète, afin que le jour de l'Éternel, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Voilà. Je ne vais pas vous faire toute l'explication encore une fois au sujet de Élie. Élie est venu une première fois, il était suivi d'Élisée. Ensuite, il est venu une deuxième fois dans cet homme qu'on appelle Jean-Baptiste et il a été suivi par Jésus. Ensuite, il est revenu encore une autre fois durant le siècle passé et selon 1 Thessaloniciens 4:16, il est le signal donné juste avant le retour de Jésus et qui est suivi par une voix qui crie et qui annonce donc le retour de Jésus et qui met les choses en ordre, qui rétablit toutes choses. Jésus ne reviendra pas avant le rétablissement de toutes choses. Ça, c'est ce que je vous ai déjà enseigné plusieurs fois, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Si vous voulez être au courant, vous allez écouter les prédications précédentes et vous aurez tout. Je crois de tout mon cœur que la promesse qui se trouve dans Malachie 4, 5, 6 s'accomplit de nos jours, parce que nous sommes à la fin. Et nous sommes juste avant le jour, le grand jour de l'Éternel, ce jour terrible. Ce jour terrible n'est pas arrivé du temps de Jean-Baptiste, ça n'est pas arrivé au temps du prophète qui était sur cette terre dans le siècle passé, parce que il y a une succession. Après que Élie vienne, il y a un autre qui doit arriver. Alors je ne dis pas que c'est moi, mais c'est une voix, cette voix-là, c'est la voix de tous ceux qui s'élèvent pour dire « Jésus revient, soyez prêts », et c'est la voix de tous ceux qui rétablissent les choses anciennes afin que Jésus puisse revenir. Dans Actes chapitre 3, il est dit qu'il ne reviendra pas avant le temps du rétablissement de toutes choses. Donc il est temps que chacun comprenne qu'il y a des choses qui doivent être rétablies dans l'Église. Si vous ne voulez pas participer à ce rétablissement, vous êtes à côté de la plaque. Vous pouvez étudier toutes les prophéties, vous pouvez étudier tout ce que disent tous les eschatologues du monde entier. Si vous ne participez pas vous-même au rétablissement de toutes choses, vous êtes à côté de la plaque. Parce que Jésus ne reviendra qu'au temps du rétablissement de toutes choses. Et les choses doivent être rétablies. Des choses qui ont été oubliées, qui ont été méprisées, qui ont été diabolisées par les églises apostates, doivent être rétablies. Et que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, c'est comme ça. Donc c'est le temps où les choses sont rétablies. Et ce qui se passe dans le monde, à l'heure actuelle, c'est juste un mensonge du diable qui cherche à nous désespérer. Vous savez qu'il y a deux peuples sur cette terre. D'après Matthieu 6, 32, il y a deux peuples. Nous sommes les membres d'un certain peuple, le peuple de Dieu, et puis il y a les membres d'un autre peuple qui sont de la semence du serpent. Il y en a qui sont choqués avec cette idée de semence du serpent, pourtant s'ils lisent bien correctement la parabole au sujet du semeur qui est sorti, qui a semé une bonne semence, c'est Dieu, la bonne semence c'est les fils du royaume, la mauvaise semence c'est les fils du diable, le mauvais semeur c'est le diable, donc c'est clair. Et puis il y a cet autre verset dans Matthieu qui dit « toute plante que Dieu n'a pas semé sera déraciné ». Donc il y a des choses, il y a des gens, il y a des plantes qui ont été semées ici-bas qui n'ont pas été plantées par Dieu. Vous ne voulez pas le croire? Bon, mais vous êtes libre. Moi je crois à la parole de Dieu. Si la parole de Dieu dit qu'il y a des plantes qui ne sont pas semées par Dieu et qu'elles vont être déracinées, moi je crois qu'il y a des plantes, il y a des êtres qui ne sont pas de Dieu sur cette terre et que, voilà, ce sont ce que la Bible appelle la semence du serpent ou si vous voulez comment c'est dit dans Genèse, la descendance du serpent. Enfin, vous regardez tout ça, vous cherchez aussi, il suffit pas simplement d'écouter béatement, comme des brebis, voilà. Vous cherchez afin de comprendre, de trouver, et chercher surtout dans la prière. Bon, ce qui se passe dans ce monde à l'heure actuelle, ça cherche à nous désespérer, on voit que tout va de travers, qu'on semble que tout s'effondre, mais mes frères et sœurs, tout ne s'effondre pas. Tout s'effondre dans leur monde, pas dans le nôtre. Tout s'effondre dans leur monde. Nous, au contraire, tout est en train de se réunir, tout est en train de se mettre en place. Et même si aujourd'hui les relations humaines de base se désintègrent, ce que nous appelons mariage, qui est une institution de Dieu, si la famille, qui est une institution de Dieu, explose dans le monde, c'est leur affaire, c'est pas la nôtre, c'est leur monde, c'est leur truc à eux, c'est pas nous. Nous, au contraire, ça marche pas comme ça. Nous, au contraire, on marche de fidélité en fidélité. Si aujourd'hui, il y a de nombreux enfants, de nombreux parents qui tournent leur cœur, non pas les uns vers les autres, mais vers leurs besoins égoïstes, c'est pas ça. Chez nous, c'est pas comme ça. Ils ne cherchent pas le Seigneur, ils cherchent à suivre leur propre voie, et c'est pourquoi Malachie a parlé. Il a annoncé la venue d'Élie qui accomplirait quelque chose de très important au niveau des familles ramenant les uns vers les autres. Vous allez dire, c'est loin de s'accomplir. Non. C'est loin de s'accomplir dans le monde, avec l'esprit du monde. Dieu dit que si cette œuvre n'a pas lieu, eh bien cela apporterait le fait que Dieu va frapper le pays d'interdit. Il y a deux peuples, comme je vous ai dit. Dieu est sur le point de frapper non seulement Israël et le monde entier, mais le monde entier, justement. Mais à cause de cette œuvre de retour des pères à leurs enfants, du retour des enfants à leurs pères, eh bien, même si cette œuvre semble insignifiante, même si ça n'est qu'au milieu du peuple de Dieu et encore dans un tout petit endroit, tout petit minable, qui ne se voit qu'à peine, eh bien, même si cette œuvre semble insignifiante, à cause de cette œuvre-là de rapprochement du père à leurs enfants, du rapprochement des enfants à leur père, à cause de cette œuvre-là, Dieu retient son bras et ne frappera pas le monde comme il mériterait d'être frappé. Alors, nous avons à agir sur deux plans principaux, nous, en tant qu'enfants de Dieu, sur le plan terrestre, matériel, et sur le plan spirituel céleste, qu'il en soit fait sur la terre comme il en est fait au ciel. Mais vous savez, le ciel c'est aussi réel, n'est-ce pas? C'est plus subtil, simplement, on ne le voit pas, mais c'est une réalité quand même, et nous avons à faire des choses, à poser des actes qui ont leur valeur dans les lieux célestes. Ce que nous faisons dans le domaine des esprits, ça n'est pas visible actuellement. Ça fait rire les gens, trouve qu'on perd notre temps. Et souvenez-vous du cinquième commandement. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Exode 20:12. Mais il y a deux parties. C'est dans le monde visible et dans le monde invisible qu'on doit honorer nos familles. Vous ne pouvez pas mépriser les gens qui ont vécu avant vous. Ce sont vos grands-pères, arrière-arrière-grands-pères. Ils ont souffert. Ils ont fait des choses terribles pour en arriver au point où vous en êtes. On ne peut pas mépriser tout cela. Vous voyez, l'esprit et la promesse qui se trouvent dans le cinquième commandement va plus loin que le simple respect filial ici-bas entre vivants. Ce que l'esprit d'Élie fait aujourd'hui, au travers de la voix d'archange qui lui succède, selon 1 Thessaloniciens 4:16, je vous redonne le texte, c'est d'étendre cet amour filial au-delà des barrières terrestres. Tout est en marche pour que tout deviennent un, le ciel et la terre. C'est seulement à la fin que ça doit arriver. Je vous enverrai Élie le prophète avant le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. C'est juste avant la fin que le cœur des enfants doit se tourner vers leurs parents, le cœur des parents doit se tourner vers leurs enfants. Mes frères et sœurs, c'est un miracle que ces vérités, cette soif, viennent au cœur des enfants de Dieu. C'est un miracle, il faut un miracle pour ça. Il faut que ça s'implante dans les cœurs, parce que c'est une bénédiction pour nous et c'est un scandale pour les autres, c'est idiot, c'est hérétique pour tous ceux qui ne croient pas. Ils n'en veulent pas, ils ne veulent pas écouter ce que les prophètes ont dit autrefois, ils veulent simplement écouter leur religion. Je suis certain que vous, les parents, vous priez pour que ce désir s'implante dans le cœur de vos enfants, que le cœur de vos enfants se tourne vers vous. Je crois que je n'ai pas le moindre doute que les promesses de Dieu, que Dieu a fait dans la Bible, soient vraies. Je suis certain qu'elles sont vraies. Et je suis certain qu'au travers de moi, elles sont implantées dans le cœur des gens qui aiment leur famille. Pas seulement leur fiston, ou leur fifi, leur papa, leur maman, mais aussi les ancêtres, ceux qui nous ont précédés. Aussi bien dans ce monde que dans l'autre monde. Vous savez, la Bible dit « Crois et tu seras sauvé, toi et ta famille ». Pour moi, c'était une hérésie ce verset, parce que je disais « Mais comment est-ce que ma famille peut être sauvée ? Mais jusqu'à quel degré ma famille peut être sauvée ? Est-ce que parce que je crois, ma mère va être sauvée ? et mon père qui est décédé, est-ce qu'il va être sauvé, et mon arrière-grand-père, et... la Bible dit, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça va loin, ma famille. Ça va jusqu'où, ma famille? C'est seulement les vivants? Ma famille, c'est seulement les vivants. Le moyen par lequel ma famille peut être sauvée, je vous l'ai largement expliqué dans mon enseignement de vendredi passé, je ne vais pas revenir là-dessus. Écoutez ce message. Il y a un moyen. Il existe vraiment un lien, mes frères et sœurs, et un sentiment d'appartenance entre les générations. Il existe, de part et d'autre, du voile. Je dis bien de part et d'autre du voile. Souvenez-vous du mauvais riche dans le séjour des morts. Il se faisait du souci pour ceux de sa famille qui étaient encore parmi les vivants. Mais à cette époque-là, rien ne pouvait être fait. La réponse qu'il a reçue, c'est « ceux qui sont sur la terre, ben, ils n'ont pas écouté Moïse ». C'était la réponse d'alors. Mais aujourd'hui, Jésus a ouvert le chemin. Le mauvais riche qui se faisait du souci en bas, bon, il se faisait du souci en bas. Et à l'époque, les gens qui se faisaient du souci alors qu'ils étaient en haut dans le monde des vivants, ils se faisaient du souci pour ceux qui sont en bas. Est-ce qu'ils sont sauvés? Est-ce qu'ils sont perdus? Est-ce qu'ils sont en enfer? Ils ne savaient pas. Et Jésus est venu. Et la foi que la famille pouvait être sauvée a commencé à rentrer dans le cœur des chrétiens de l'église naissante. C'est pourquoi ils cherchaient le nom de leurs ancêtres et ils se faisaient baptiser pour eux. 1 Corinthiens 15, 29. Parce que ça nous met dans une désespérance, cette histoire de « mais que sont devenus mes ancêtres ?» si vous y réfléchissez. Ah, je sais, c'est pas tellement courant la réflexion dans des milieux chrétiens, on pense pas. On prie, comme disait Jacques Brel. On prie pas pour les morts, non, c'est interdit. Mais alors, on sait pas ce qu'ils deviennent. Puis on a quand même un peu une tristesse au sujet de nos morts, mais alors? Alors, il y avait de la joie dans l'église primitive. On pouvait se faire baptiser pour les morts. Et puis, l'apostasie s'est installée. Des démons religieux qui ont corrompu la vérité biblique. Ils ont inventé le purgatoire. Ils ont enseigné qu'en payant, pour faire des messes, on pouvait sauver nos ancêtres. Des bandes d'escrocs. Quel mensonge. Mais vous voyez, ce mensonge était plus ou moins basé sur une vérité, mais sur une vérité qu'ils avaient pervertie. Mais elle était aussi basée sur un besoin, parce qu'on a une souffrance, nous, qui croyons. Jésus dit, celui qui croira qu'il sera sauvé sera... Celui qui croira qu'il sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Alors on a une souffrance. Alors mon oncle, ma tante, mon père et tous ces gens qui sont morts sans croire au Seigneur Jésus, ils n'ont jamais été baptisés, alors ils sont perdus. Ben oui, ils sont perdus, voilà, ils sont perdus. Ils sont en train de griller en enfer, tous tes ancêtres là. T'es content? Voilà, c'est ça qu'on nous enseigne dans les églises. La vérité, c'est que nous pouvons être dans la paix au sujet de nos disparus. On peut être dans la paix, même s'ils n'ont pas connu le Seigneur Jésus-Christ ici-bas. Il y a une chance nouvelle qu'il leur est donnée en bas. L'Évangile leur est prêché. Ils ont été jugés quant à la chair. Ils ont été mis du mauvais côté du séjour des morts. Ils ont été jugés quant à la chair. Et maintenant, ils sont dans ce séjour des morts, attendant le jour du jugement dernier. Mais dans cet endroit, l'Évangile est prêché. Et ils peuvent vivre quant à l'esprit. Ils peuvent vivre pour Dieu quant à l'esprit. C'est écrit dans 1 Pierre 4, 6. Vous voulez pas? Pourquoi vous voulez pas? Parce que votre religion ne prêche pas ça? Bon, ben, restez dans votre religion et continuez à croire que vos ancêtres sont morts et sont prêts pour l'enfer. C'est une religion cruelle. Je sais que ça trouble beaucoup de mes auditeurs. Là, j'ai reçu en particulier une lettre d'une chrétienne qui me dit que je mélange la saine doctrine à la doctrine mormone. C'est quoi la saine doctrine? C'est votre doctrine, la saine doctrine? Écoutez bien. Imaginez, il y a un bon protestant qui veut se faire baptiser par immersion. Ah, tout de suite, les autres bons protestants vont lui dire « Mais attends, tu es en train de mélanger la saine doctrine protestante avec la fausse doctrine des baptistes. » C'est comme ça qu'on nous dit les choses. Imaginez maintenant qu'un baptiste reçoive le baptême dans le Saint-Esprit, en parle chez lui. « Ah, oh, j'ai reçu le baptême dans le Saint-Esprit, c'est merveilleux. » Eh ben, les bons baptistes qui sont avec lui vont lui dire, mais mon pauvre frère, mais tu es en train de mélanger la saine doctrine avec l'hérésie pentecôtiste. C'est comme ça. Moi, je me rappelle, quand j'étais nouveau chrétien, je suis allé à la librairie chrétienne de Paris pour acheter une concordance, parce que j'étais à l'école biblique et j'avais besoin d'une concordance biblique. Et puis, dans le feu de ma joie, j'ai raconté mon témoignage, comment je m'étais converti chez les gitans. Et les deux hommes qui étaient là, derrière le comptoir se sont regardés avec un air entendu et il y en a un qui a dit « Oui, il paraît qu'il y a des gens qui se convertissent dans ces réunions occultes. » Il parlait de mes frères et sœurs pentecôtistes. De vous ? Les pentecôtistes qui pensaient que vous détenez toute la vérité. Ben, il y a des gens qui pensent que vous êtes dans l'erreur. Et si un pentecôtiste veut se mettre à vivre en communauté, comme c'était pratiqué dans l'Église primitive, eh ben, tous les autres vont se mettre à l'accuser de mélanger la saine doctrine avec le poison des sectes dangereuses qui, on le sait bien, vivent en communauté, et de préférence dans les châteaux. Vous voyez? On est toujours le diable de quelqu'un. Mais le baptême par immersion est biblique, que les protestants le veuillent ou pas. Il n'est pas biblique pour ceux qui refusent d'y croire. Le parler en langue est biblique, sauf pour ceux qui refusent d'y croire. La vie communautaire est biblique, sauf pour ceux qui refusent d'y croire. Le baptême pour les morts est biblique, sauf pour ceux qui refusent d'y croire. Le scellement des mariages éternels est biblique, sauf pour ceux qui refusent d'y croire. Eh bien, où est-ce que vous êtes? Moi, je crois ce qui est écrit, et je ne crois pas ce que les gens croient ils sont la majorité. Ah, Michel, tu crois que toi, tout seul, tu as la vérité? Attendez. Je crois ce que la Bible dit, même si la majorité ne croit pas comme moi. Parce qu'ils ont été enseignés par des religieux qui ont eux-mêmes été enseignés par des religieux, etc. Et ils veillent à leur grain, ils font attention à leur barrière, il faut pas franchir la barrière. En Norvège, ils ont déclaré un jour, il y a la liberté religieuse maintenant. Ah oui. Alors il y a une femme mormone qui s'est levée. Tiens, pour vous qui m'accusez de fréquenter et de mélanger la doctrine mormone avec la vérité. Il y a une mormone qui s'est levée à dire, ah oui, ça c'est dans la loi, mais essayez d'être autre chose que participant à l'église officielle. Vous allez voir si c'est si facile. Ça n'est pas facile de marcher dans la vérité. On est toujours critiqué et surtout par ceux qui se nomment nos frères et nos sœurs. Et ça fait mal. Je crois que puisque je suis croyant, eh bien, en tant que sauvé, je dois faire ce que je dois faire, et en faisant ce que je dois faire, que je comprends dans les Écritures, eh bien, je peux sceller mes ancêtres pour l'éternité. Parce que je suis croyant. Si vous n'êtes pas croyant, vous ne pouvez pas sceller vos ancêtres pour l'éternité. Vous ne le faites pas, et cela n'aura pas lieu pour eux. Pensez, vous les jeunes qui écoutez, pensez à vos grands-parents. Comment ils ont souffert, vos grands-parents? Comment ils ont vécu, vos grands-parents? Tiens, vous de la communauté, demandez à la sœur Simone. C'est une des sœurs âgées de notre communauté. Une femme d'origine juive. Vous les jeunes, demandez à votre grand-maman. Demandez comment ses ancêtres, comment vos ancêtres ont souffert parce qu'ils étaient juifs. Demandez-leur ce qui leur est arrivé à ses ancêtres juifs, à vos ancêtres juifs. Demandez-lui à votre grand-mère comment les catholiques et les protestants les ont massacrés. Vous allez me dire, oh, mais ils les ont pas massacrés parce qu'ils étaient catholiques ou parce qu'ils étaient protestants et puis que les autres étaient juifs. Non, mais n'empêche que c'était quand même bel et bien des protestants et des catholiques qu'ils ont massacré ces juifs. Ces mêmes gens qui disent que je suis dans l'hérésie. Je pense aux ancêtres de la famille de Simone en particulier parce que ils ont souffert en tant que juifs, souffert de la part des non-juifs, c'est-à-dire des protestants et des catholiques, peut-être même d'autres évangéliques, va savoir. Maintenant, l'antisémitisme est répandu dans les milieux évangéliques d'une façon horrible. Ils ont souffert le martyre ici-bas de la main des non-juifs, c'est-à-dire des catholiques, des protestants, de toutes ces charmantes personnes qui se réclament de la saine doctrine. Et ils ont souffert le martyre ici-bas et se retrouvent maintenant du mauvais côté dans le séjour des morts parce qu'ils n'ont pas cru au Seigneur Jésus-Christ. Dans une autre souffrance, ils se trouvent maintenant. Et vous, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous qui êtes là sur cette terre à la fin des temps, vous qui vivez sur cette terre, eh bien, vous pouvez vous tourner vers eux, selon la prophétie de Malachie. Vous pouvez vous tourner vers eux. Les fils se tourneront vers leur père et ils feront pour eux ce qu'ils doivent faire. Ils pourront faire les alliances pour eux. Ils pourront les sceller. Et ces gens qui ont souffert sur cette terre et qui souffrent maintenant dans le séjour des morts pourront sortir parce que vous aurez fait ce que vous avez à faire en tant que croyant. Ne pensez pas à ce que les incroyants pensent. Depuis quand est-ce qu'on s'inquiète de ce que les incroyants pensent? Si quelqu'un peut venir vers moi me dire je suis protestant, c'est pas pour moi une très très grande preuve. Quelqu'un peut venir vers moi me disant je suis pentecôtiste ou baptiste ou branhamiste ou ceci ou cela, ça n'est pour moi pas une très très grande preuve. Je regarde, est-ce que vous croyez la parole de Dieu, est-ce que vous la mettez en pratique? Ah oui, ah non, attendez, quelle parole de Dieu? La pentecôtiste, la baptiste, la protestante, la catholique, laquelle vous croyez? Croyez simplement dans le message de la Bible. Grâce à vous qui êtes sur cette terre, ces gens-là peuvent sortir, être emmenés comme Jésus a conduit avec lui ceux qu'il avait reçus dans ses jours des morts, il les a emmenés, c'était des captifs, il les a emmenés dans les hauteurs. Éphésiens. Lisez Éphésiens. Ils ont sans doute entendu prêcher l'évangile, vos ancêtres. Sans doute, ils ont cru. Il ne leur manque que le scellement. Et c'est là que vous intervenez. Plus de soucis, ni en bas, ni en haut maintenant, pour ceux qui croient le message révélé de la Bible. Le Seigneur nous a promis l'éternité. Et puisque nous honorons nos parents, nous tournons nos cœurs vers nos parents, vers eux, eh bien nous serons heureux de les voir avec nous dans l'éternité, parce que nous aurons fait en tant que croyants ce que nous devons faire avec les alliances qui les concernent. Pour ceux qui ne veulent pas croire à ce que Dieu m'a révélé, et qui se trouvent pourtant dans les Écritures, mais qu'ils ne veulent pas comprendre, parce qu'ils ne veulent pas comprendre, mais ils sont dans la confusion quant à leur famille, ne sachant pas ce qu'est devenu leur maman. Où elle est ta maman? Elle est en enfer, parce qu'elle n'a pas levé sa main dans une réunion, parce qu'elle ne s'est pas fait tremper dans l'eau. Elle est en enfer, ta maman. Et tes enfants qui sont morts, ils sont où? En enfer aussi. Leur papa, ton papa, il est où? Et ce cher grand-papa que tu aimais bien, bon, il n'était pas croyant, mais pour être sauvé, il faut être croyant, il faut être baptisé. Où est-ce qu'il est, ton grand-papa? Hein? T'oses pas y penser, hein? Ils ne savent pas parce qu'ils ne croient pas. Ils sont malheureux, pensant sans doute que ces gens-là sont condamnés parce qu'on leur a dit qu'ils étaient condamnés. Terrible. C'est terrible. Je me souviens comment je pensais, avant que Dieu m'ouvre les yeux sur cette grande vérité, je me suis converti en 68 et voyez, j'ai perdu mon père en 65. Et je ne pouvais pas m'empêcher de penser à mon père. Il est où mon papa? D'après Marc chapitre 16, ben, il est perdu. Voilà. Et quand j'ai demandé à des religieux, m'ont dit, ben frère, oui, ben voilà, c'est comme ça, c'est écrit, il faut croire avant, tout, ben voilà. Je me souviens comment je pensais, avant que Dieu m'ouvre les yeux sur cette grande vérité. Ça m'attristait tellement que je ne voulais même plus y penser. Je ne pensais plus à mon père, rien. Je voulais plus. Tous ces souvenirs que j'avais, je voulais même plus y penser parce que je me disais, mais alors en ce moment où il est? Mais en ce moment, qu'est-ce qu'il fait? Il attend le jugement. Il est du mauvais côté, ça c'est sûr. C'était une souffrance, c'est peut-être votre souffrance. En ces jours de ténèbres, nous sommes les témoins du côté négatif de la promesse liée au cinquième commandement. C'est-à-dire que la terre sera totalement détruite à la venue du Seigneur, car la terre sera frappée par la malédiction, à moins qu'il y ait un chaînon entre père et enfant. C'est ce qui est écrit dans cette prophétie. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, le cœur des enfants à leurs pères, un chaînon, voyez, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. C'est pas le mariage homosexuel qui va frapper le pays d'interdit. C'est ce qui va frapper le pays d'interdit. C'est si vous n'êtes pas ce chaînon qui se tourne vers vos parents. La terre sera frappée par la malédiction à moins qu'il y ait un chaînon entre père et enfant. Vous voyez, la bénédiction et la malédiction font partie de cette prophétie de Malachie. D'autres prophètes ont parlé de la malédiction, de la destruction de la terre par la désagrégation des liens familiaux. 1 Timothée 3:1, laissez-moi vous le lire. 1 Timothée, le temps que je le trouve... Je ne peux pas tourner les pages de ma Bible très rapidement parce qu'elle est tellement vieille. Alors c'est 2 Timothée, plus exactement, 3, 1, 3. Voilà ce qu'il dit. « Sache que dans les derniers jours... » C'est quand les derniers jours? C'est maintenant, non? « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés en fait d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de telles personnes. » Sortez du milieu d'eux. Puis aussi dans Matthieu 24, 12, où il est dit, « Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nom se refroidira. » Alors on lit les statistiques. Les conséquences de ce refroidissement de l'amour, eh bien c'est quoi? Taux de croissance de la délinquance juvénile, les prisons archi-pleines, naissance illégitime à gogo, les divorces, en veux-tu, en voilà, violence dans les familles, encore dernièrement j'ai appris qu'un cher frère s'était mis dans une espèce de secte où on battait les enfants. Il y a eu un jugement au tribunal, il y en a 3 de cette secte qui ont été mis en prison. Ce cher frère, tellement cher, qui battait les enfants avec des ceinturons, n'est-ce pas, violence dans les familles. Ce cher frère, vous savez, il ne m'aimait pas, il disait que j'étais hérétique. Ben voilà. Voilà. Une des causes de cette désintégration, je l'ai appris là il y a 2 jours, hier, 2 jours. Une des causes de cette désintégration, c'est l'importance accordée à l'idée que chacun doit être libre de faire comme il veut et de chercher son propre épanouissement. Vous ne pouvez pas faire comme vous voulez. Vous devez faire comme Dieu veut. Et la parole pour notre temps, c'est que les parents et les enfants doivent se tourner les uns vers les autres. Les parents d'ici et les parents de derrière le voile, afin d'être scellés pour l'éternité. Dans cette perspective, les liens entre les gens sont perçus vraiment de moins en moins comme quelque chose d'enrichissant. Quand on voit ce qui se passe dans ce monde, avec cette perspective de chacun fait ce qu'il veut, on est libre, mais c'est... On voit ça souvent chez nous, n'est-ce pas? Tous ces chrétiens qui aimeraient tellement vivre en communauté, qui nous admirent tellement, mais on pourrait pas. Ah oui, pourquoi on pourrait pas? Pourquoi? Parce qu'on serait pas libre de faire ce qu'on veut, on serait obligé de faire la volonté de Dieu. Les liens entre les gens est regardé de plus en plus comme une contrainte. Et voilà pourquoi, dans notre siècle de haute communication, on est de plus en plus seul, derrière son écran comme un idiot, à communiquer.
Ça va? Oui, ça va. T'es où? Ah ben, je suis à la fac. Ça va? Oui, oui, ça va. Et puis les enfants, ça va? On est bien. La haute technologie au service de la plus haute connerie humaine.
On est seul, les gens sont seuls. En plus de nous mener à cet isolement, cette tendance, elle nous fait perdre notre mémoire collective, c'est-à-dire la connaissance essentielle que chaque génération doit posséder afin de permettre la continuité de la société. Et même, je dirais même, de la survie de la culture.
Yo, aga, yo, MDR, lol.
Vous voyez ce que je veux dire? Pour survivre, notre société a au moins besoin que ses membres aient tous quelques principes en commun, qu'ils obéissent à certaines règles, qu'ils acceptent le fait qu'ils dépendent les uns des autres.
À faute du gouvernement.
En voyant ça, j'espère que vous voyez mieux pourquoi c'est merveilleux d'honorer nos parents, aussi bien ceux qui sont de ce côté du voile que les autres. Honorez vos parents, ceux qui sont vivants, et les autres. Faites, en tant que croyants, ce que vous devez faire pour eux. Communiquez avec les vivants, aimez-les malgré leurs défauts, parlez avec eux, mangez avec eux, jouez avec eux, allez à l'église avec eux, mais vivez quelque chose avec eux. Ne communiquez pas avec les morts, c'est une abomination. mais cherchez leurs noms. Cherchez les noms de ceux de vos familles disparues et faites-vous baptiser à leur place. Si vous ne pouvez pas le faire, envoyez-nous les listes, nous le ferons ici. C'est notre ministère. Nous le faisons gratuitement. Ceci leur permettra de recevoir le sceau du Saint-Esprit selon 1 Pierre 4-6. Parce que, je vais réécouter la prédication de vendredi passé. Ça leur permettra d'être scellés pour le jour de la résurrection. Parce que le sceau du Saint-Esprit, c'est justement pour ce jour-là, pour le jour de la rédemption, pour la fin. Et ça leur permettra de vivre éternellement avec vous dans le paradis de Dieu. Alors sortez des religions qui condamnent vos ancêtres à l'enfer. Sortez de ces religions conduites par des ignorants et marchez dans la lumière pour vous-même, pour votre famille vivante et pour le reste du monde et aussi pour ceux qui sont dans l'autre monde. Que Dieu vous bénisse et vous aide à comprendre que c'est important. Je ne cherche pas votre argent, vous voyez, contrairement à tous les autres. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.